Bonsoir. Ce soir, je vous remercie déjà de m'avoir invité. On va un peu changer de sujet, puisque jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des sujets gastronomiques purs. Donc après avoir fait les différentes régions, cette année, on a décidé d'aborder un autre sujet et un autre domaine, qui est toujours autour de la gastronomie, mais qui est un peu différent, qui est un mouvement qui est né en Italie, mais dont le développement va bien, bien au-delà de l'Italie, qui est le mouvement Slow Food. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez déjà vu. C'est extrêmement présent en Italie. En France, il y en a un petit peu. C'est très présent dans des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, un peu les États-Unis. Donc ce que je me propose ce soir, c'est de vous parler de différentes choses. D'abord un peu quelques définitions autour de Slow Food, comprendre un petit peu ce que c'est, faire un peu d'histoire autour de ce mouvement. C'est un mouvement qui a un certain nombre de valeurs, qui a un certain nombre d'actions, qui a développé des actions qui vont bien au-delà de l'action pure locale, puisque ce sont des actions qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, et qui tendent à regrouper en fait plutôt un état d'esprit. Et puis ils ont mis en place tout un tas d'outils, qui sont des outils qui ont été développés au fil des ans, et qui se développent. Donc je me propose de faire un petit peu le tour de tout ça avec vous. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et après, j'ai ramené 3-4 trucs à grignoter, comme d'habitude, qui sont pas slow food. Pour certains, peut-être, le deviendront un jour. Pour d'autres, le panettone, ça m'étonnerait qu'il devienne slow food tout de suite. Ça me paraît pas... Ça peut faire partie de slow food d'une certaine façon, mais pas complètement. On en discutera un peu plus tard. Comment est né ce mouvement? C'est né, il y a une année clé, qui est l'année de création de ce mouvement. C'est 1986. Et pourquoi il y a eu un événement fondateur du mouvement? C'est McDo décide de s'implanter Piazza di Spagna à Rome. Donc ça a été juste l'horreur intégrale pour l'italien un peu moyen. Pour toute l'Italie, c'est devenu un drame national pratiquement, parce que McDo qui s'implante au plein milieu de la place d'Espagne à Rome, c'était juste une aberration. Et juste tellement à l'inverse de la culture italienne et aussi des habitudes culinaires. Il faut dire que jusque-là, McDo n'était pas vraiment implanté dans ces pays-là, ce qui n'était pas le cas partout en Europe, partout dans le monde, mais en Italie, c'était très sauvegardé jusque-là. Et un homme, Carlo Pietrini, qui était un chroniqueur d'Arcigola, qui est une société gastronomique italienne, c'est le Pudlowski un peu local, par exemple, pour donner une analogie, a commencé à dire « mais c'est juste pas une option ». Enfin, là, pour le coup, c'est pas du tout... une possibilité, c'est très dommage que d'un coup McDo s'installe là, c'est qu'on commence à dériver vers deux choses, d'une part vers la malbouffe, mais à la limite c'était pas ce qui le gênait le plus, ce qui le dérangeait le plus encore que le côté malbouffe de la chose, c'était vers une standardisation des habitudes alimentaires. Et là, pour lui, c'était un vrai souci. Et tout s'est cristallisé, on va dire, autour d'une ville, qui est la ville de Bra, dans le Piémont. Bra, c'est du côté de Asti, Cuneo, au nord de Cuneo et à l'ouest d'Asti. Alors, qu'est-ce que Slow Food? Au départ, c'était un peu une espèce de petit mouvement qui s'est cristallisé autour d'artistes, principalement d'intellectuels. Et c'était une espèce de clin d'œil en disant, bah, puisqu'ils installent un fast-food quelque part, nous, on va s'appeler les Slow Food. Donc, c'était un peu un mouvement d'opposition. Au départ, un peu un mouvement... Ouais, de quelques un peu fous, pas complètement fous, mais un peu foufous, qui ont décidé de dire « Tiens, nous, on va s'opposer à notre façon avec nos petits moyens », puisqu'à l'évidence, ils n'avaient pas vraiment de gros moyens sur le moment. Et assez rapidement, dès 1989, l'organisation s'internationalise, et ils créent à Paris, à l'Opéra Comique, ça ne s'invente pas, un manifesto pour le goût et la biodiversité. Donc assez rapidement, le mouvement prend de l'ampleur, reste toujours dans un domaine assez culturel, un petit microcosme un peu intellectuel, culturel au départ, et il présente ce manifesto au cours duquel, justement, il commence à donner un certain nombre de valeurs de consommation, de façon de fonctionner, de façon de cultiver, mais ça reste encore assez un mouvement d'intellectuels qui font ça un peu dans leur petit coin. Depuis... C'est un mouvement qui s'est énormément développé, on va le voir tout à l'heure, qui se veut un mouvement éco-citoyen, donc pas un mouvement politique, même si dans une certaine mesure on peut dire qu'aujourd'hui Slow Food fait une forme de politique, en faveur de l'éco-gastronomie et de l'alter-consommation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se dit que dès la fin des années 80, ces gens-là ont commencé à pressentir ce qu'est aujourd'hui tout ce qu'on voit, à la fois autour de tout ce qu'on entend autour de la malbouffe, mais aussi commencent à pressentir ce qu'on voit aujourd'hui avec le fait maison, le maître restaurateur, les AOC qui deviennent de plus en plus restrictives. Enfin, donc il y a tous ces choses-là qui commencent déjà à être pressenties dès cette époque-là, c'est-à-dire il y a pas loin de 30 ans maintenant. À aujourd'hui, alors ça change un peu tous les jours et ça change selon les données qu'on a, mais en gros, il y a 80 000 membres dans le monde, à peu près une petite moitié en Italie. Là, j'ai relu des choses tout à l'heure, j'avais pas loin de 100 000, alors bon, entre 80 et 100 000 membres, donc c'est pas non plus une paille. Il y a une présence dans à peu près 90-92 pays selon les sources qu'on trouve. Et ces unités locales s'appellent des conviviums. Alors pourquoi elles s'appellent comme ça, on va voir après. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion du vivre ensemble qui est extrêmement importante et ça va bien au-delà de juste l'alimentation. Slow food a des valeurs qui sont quand même très militantes. Dès que ça sort un peu du petit microcosme intellectuel, ça commence à avoir des valeurs assez marquées au niveau du militantisme, au niveau de qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer la société et pour éviter qu'un certain nombre de choses ne reculent. Donc, les valeurs, c'est d'une part s'opposer aux effets de l'industrialisation, de l'agroalimentaire très industriel, et on parle de notions qu'on estime assez graves, qui sont la mise en péril d'un patrimoine alimentaire de l'humanité. Donc ça va assez loin, en fait, dans une vision assez noire de la chose. S'opposer à la culture de la restauration rapide, mais surtout, je dirais presque, la restauration rapide, c'est pas encore trop ça le problème pour le slow food, c'est plus la standardisation des goûts. C'est-à-dire que le fait qu'un McDo ou qu'un Coca ait la même recette à peu près partout dans le monde, ça, c'est juste pas acceptable. Pour eux, c'est plus ça, à la limite, que le fait qu'on mange un sandwich vite fait. Bon, les sandwichs vite faits, les tramezzini, les panini, ces choses-là, ça reste des sandwichs vite faits, mais qui sont adaptés à la culture locale, qui sont des héritages historiques d'une certaine culture. Quand le McDo, que vous le mangiez, enfin, même si c'est pas complètement vrai, mais que vous mangez un McDo à Pékin, à New York ou à Rome, vous avez à peu près le même, quoi. Et c'est ça qui leur plaît pas du tout et qu'ils estiment être vraiment dommageable pour plusieurs choses. Déjà pour le goût, mais aussi pour les producteurs. Puisque qui dit standardisation de la consommation dit quelque part en amont standardisation de la production alimentaire, de l'agriculture, parce qu'il y a des variétés qui vont bien, des variétés qui vont pas. Et, alors là on prend une dimension qui est encore plus politique, c'est réduire une fracture entre quelque part des riches qui cherchent des bons produits mais qui sont cultivés par des pauvres, et des pauvres, des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont contraints d'acheter un prix et qui, pour ce prix-là, ont de la qualité qui n'est pas bonne. Donc en fait, il y a toute une idée qui consiste à dire que ce n'est pas complètement normal d'avoir, d'une part, une société à deux vitesses, mais une espèce de cercle vicieux où à la fois on vous oblige à produire des trucs pas terribles et à manger des trucs pas terribles, à moins que vous n'ayez vraiment les moyens de pouvoir choisir, parce que comme il n'y a plus beaucoup de production bien, elles sont très chères. Donc en fait l'idée c'est de dire tout le cercle est pas bon, donc il faudrait changer le paradigme total. Il y a une valorisation de deux choses. Dans Slow Food, il y a à la fois une valorisation de l'alimentation, évidemment, mais il y a aussi la valorisation du vivre ensemble. Tout à l'heure, je disais, les unités locales s'appellent des conviviums, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on dit à un moment, ce qui est important, c'est de choisir des aliments de qualité, de les cuisiner, donc contre tout ce qui est préparé ou pré-industrialisé, et de les manger en bonne compagnie. Un droit fondamental qui a été érigé au plaisir d'une nourriture de qualité, et en disant que le repas, ça doit être un temps de partage et de convivialité, donc à l'évidence complètement opposé à « je fais la queue à un guichet, je prends un truc qui ressemble vaguement à un sandwich et je le mange quelque part en marchant », c'est plus un repas. Donc après, il y a deux écoles. Il y a les très extrémistes qui disent « il faut carrément éradiquer tous les fast-foods », et il y a ceux qui disent « ça répond à une unité de besoin, à un besoin particulier qui est « je me nourris », mais je me nourris, c'est pas je mange. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est juste mettre du fuel dans le corps humain, mais ça n'a pas de notion de plaisir, de partage, et le repas, c'est pas ça. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Et tout autour de ça, ce qui tourne autour de tout ça, c'est un devoir de protéger un héritage, des produits, des traditions, de culture, des cultures tout seules qui rendent ce plaisir possible. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a plus qu'une variété de pommes dans le monde, le choix est quand même limité et du coup, on n'a pas la diversité de goût, de texture, d'utilisation. Si on commence à dire qu'il n'y a plus qu'une seule variété de quoi que ce soit, ça, c'est juste pas possible. Or, si on commence à dire qu'il faut que les tomates rentrent toutes dans des cagettes, qu'elles soient plutôt un peu de forme carrée, qu'il faut pas qu'elles s'abîment quand on les mélange, qu'il faut qu'elles puissent être jetées du haut de 2 mètres sans se casser la figure et sans s'écraser, du coup, assez inévitablement, il y a tout un tas de variétés qui répondent plus au brief et qui se retrouvent éliminées d'office. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de variétés de pommes, de tomates, enfin si on prend les fruits, parce que c'est un peu plus facile. Et à l'arrivée, on arrive avec une golden, une espèce de tomate grappe qui n'ont plus de goût ni l'une ni l'autre, quoi. Donc du coup, ils sont aussi contre ça, en disant à un moment, protéger l'héritage, c'est aussi ça. C'est aussi préserver des choses qui vont disparaître si on ne s'en occupe pas, parce que il n'y a plus forcément les débouchés dans les circuits classiques. Donc il y a une espèce de logique, on va dire, après on adhère ou on n'adhère pas à cette logique qui est la logique de Slow Food, mais leur logique, c'est de dire... Un consommateur qui est conscient déjà et qui est informé et qui sait quel est l'impact de ses choix peut aider à créer un nouveau modèle agricole qui soit moins intensif, plus respectueux à la fois de l'environnement et des gens pour créer des aliments qui soient bons, propres et justes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, après bon, c'est un autre débat, mais ce schéma-là a été réfléchi début des années 90. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans plein de domaines ? Que si on fait un peu attention à consommer ce qui vient près de chez soi, on a moins de transport, donc on pollue moins. Ce cheminement de pensée, qui était le cheminement de pensée de quelques-uns il y a 25 ans, d'un peu plus il y a 15 ans, aujourd'hui, on ne va pas dire que tout le monde réfléchit en ces termes, mais ça s'est quand même énormément développé. Pas spécialement en France d'ailleurs, sous la bannière de Slow Food, mais on va se dire qu'ils avaient quand même un petit peu anticipé l'évolution un peu inéluctable de la consommation effrénée et de la standardisation à tout craint. Donc ils ont lancé, on parlera après un peu de leurs actions, mais des affiches, des pubs, des choses comme ça, où en gros ils vous disent, quand vous faites vos courses, utilisez votre tête pour comprendre ce que vous achetez, pourquoi vous achetez, quel est l'impact que peut avoir le fait d'acheter ceci ou cela. Donc faites vos courses en conscience et consciemment. Après, une fois encore, il y a les plus extrémistes qui disent faites vos courses sans déroger, on va dire, aux règles, et ceux qui disent, bon, après vous pouvez déroger, mais faites-le en conscience. Après, allez pas vous plaindre qu'il n'y a plus de thon si vous arrêtez pas de manger du thon rouge. À un moment, si vous en mangez tout le temps, vous contribuez au fait qu'il n'y en ait plus. Donc Slow Food s'est assigné aussi une mission qui est une mission d'éducation. Donc d'éveiller les consommateurs à la qualité. Qu'est-ce que la qualité ? Donc ils font beaucoup, en Italie pas mal, en France un petit peu, beaucoup en Autriche, en Allemagne, des séminaires ou des interventions dans les écoles, énormément pour sensibiliser justement le public le plus jeune à qu'est-ce que la qualité, qu'est-ce que l'origine des produits, les conditions de production, le goût, qu'est-ce que le goût, puisque si on est habitué à manger qu'une seule variété de pommes, le goût c'est le goût d'une pomme, point barre, alors qu'il y en a des milliers. Donc c'est ce genre d'action qui sont menées de manière régulière, avec vraiment une mission d'éduquer la population, dans le but ultime de la faire changer. Donc il y a un certain nombre d'actions concrètes, d'actions un peu symboliques, ou bien réelles, parce qu'il y a des salons, c'est pas juste symbolique. Depuis 1990, donc très tôt quand même, le mouvement s'est quand même assez bien structuré. Ils ont créé une maison d'édition qui s'appelle Slow Food Editor, qui a créé, si vous en Italie, vous vous êtes peut-être procuré un petit bouquin qui est pas mal fait, qui s'appelle Osterie d'Italia, qui est une espèce de guide du routard italien, qui vous présente les restos où il faut manger, pas manger, les endroits où vous pouvez acheter. Et donc, c'est eux qui sont l'éditeur, par exemple, de ce truc-là, qui est je pense que c'est un best-seller en termes de petits guides touristiques des bons restos ou petits restos, justement, c'est pas forcément des choses gastronomiques, mais des endroits un peu sympas où on peut aller. Ils ont créé à partir de 2004 ou 2003 ou 2004, je ne sais plus, le Salon del Gusto à Turin, qui est un salon qui est assez important, qui regroupe un grand nombre de producteurs, plutôt de produits d'assez haute qualité, mais qui regroupe aussi tout un tas d'informations sur, on verra tout à l'heure, les arches du goût, les sentinelles, les produits qu'il faut essayer de préserver et pourquoi. Donc ça donne l'occasion à la fois aux producteurs de se rencontrer et aussi aux producteurs de pouvoir présenter au grand public. J'ai quand même pas mal de visiteurs. La dernière session a eu lieu là fin octobre à Turin. C'est tous les deux ans. Et l'année, donc ça c'est les années paires, et depuis 2009, les années impaires, il y a un salon qui se produit à Tours, donc pas loin d'ici, qui s'appelle Eurogusto, qui est un petit peu suivant le même principe, présentant des producteurs, des produits locaux, des produits qui risquent de disparaître. Donc il y a ce salon qui est mis en place. Donc ça, c'est mis en place depuis 2009. Depuis 2003, a été créé à Bra, donc la fameuse ville du Piémont, où on fait une tome, mais ça n'a rien à voir, l'Université des sciences de la gastronomie, qui est une université qui en fait délivre des diplômes qui sont reconnus par l'État italien. Donc c'est une université privée, c'est la seule qui ait ce statut en Italie d'être complètement privée, mais qui délivre des diplômes et qui travaille ou qui vise plusieurs choses. D'une part, à renouveler les méthodes agricoles. Donc justement, pour dire, on va pas, enfin, c'est pas retourner au Moyen-Âge, c'est utiliser des méthodes actuelles, mais pour produire moins intensif, plus propre, plus respectueux. Enfin, donc c'est assez intéressant parce que c'est une approche qu'on trouve extrêmement peu, qui est pas de dire on revient aux méthodes médiévales parce que ou il y a 200 ans parce que ça c'est pas adapté, mais la modernité c'est pas forcément avoir des milliers d'hectares, des tonnes de pesticides et de faire des choses qui soient extrêmement intensives. Deuxième chose, protéger la biodiversité. Donc il y a énormément de cursus autour de la biodiversité, comment la protéger, comment essayer de respecter des cultures qui vont bien ensemble, ce genre de choses. Et, truc qui est quand même assez inédit, garder un lien entre l'agriculture et la gastronomie. Parce que leur grande idée, c'est aussi de se dire, au fil du temps, le lien entre la gastronomie et l'agriculture s'est énormément délité, et ça devient deux domaines qui n'ont plus rien à voir, alors qu'à l'arrivée, c'est quand même la même c'est l'utilisation des matières premières fournies par l'agriculture. Donc si ces deux mondes qui ne se parlent pas, arrive un moment où de toute façon, ça part pas bien. Et depuis 2004, Slow Food a créé un autre événement qui s'appelle Terra Madre, qui est une réunion de producteurs de différents pays avec comme objectif d'échanger sur les méthodes permettant une production durable. Donc là, sont intégrés à Terra Madre énormément de pays qu'on a tendance à appeler en voie de développement. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Asie, des pays d'Europe du Sud, d'Amérique du Sud aussi. Donc c'est des représentants de différents pays qui justement essaient d'échanger sur comment produire mieux. Donc pour certains, c'est produire plus pour pouvoir nourrir les populations locales. Pour d'autres, c'est produire plus propre. Pour d'autres, c'est... Donc en fait, ils essaient de s'adapter. Et depuis 2009, ils ont créé un jour, donc le 10 décembre, on en parle assez peu, surtout en France, mais le Terra Madre Day vise dans le monde à célébrer une nourriture locale de qualité, en disant à un moment, il faut quand même aussi essayer de regrouper toutes ces idées et d'en parler un peu, donc c'est le 10 décembre. Après, je sais pas, moi, jusqu'à ce que je lise ça, il n'y a pas très longtemps, j'ignorais bien que le 10 décembre, c'était la journée de la nourriture locale de qualité. On peut pas dire qu'on nous bassine avec le sujet. Donc vous le saurez, le 10 décembre, manger local de qualité. Donc, Slow Food a créé un certain nombre d'outils qui sont à leur disposition, qui sont à la disposition du plus grand public, pour justement essayer de développer ça et aussi répertorier un certain nombre de choses. Il y a quand même l'idée aussi, qui est assez importante, qu'il y a tout un tas d'héritages qui vont disparaître avec les personnes qui le font. Que quand le dernier producteur de telle ou telle variété rare va disparaître ou va arrêter son activité, comme il n'aura pas forcément de successeur, à qui il aura appris la méthode de production spécifique, le ceci, le cela, et ben le produit risque de disparaître. Donc du coup, il y a une idée de dire, avant que ça disparaisse, on va essayer de ne pas le faire disparaître, mais si jamais ça doit disparaître, il faut absolument que ce soit répertorié quelque part. Donc il y a deux outils qui servent à répertorier les choses. Il y a l'arche du goût, dont je vais parler un petit peu, et il y a les sentinelles du goût. Alors, certains produits ou méthodes font partie des deux, d'autres font partie que de l'un ou que de l'autre. Alors, le constat de l'arche du goût, il m'a fait un peu peur, quand même. J'avais pas franchement conscience de ça. Mais depuis 1900, en Europe, on a perdu 75% des produits alimentaires. Alors, si on regarde par rapport aux États-Unis, on se dit qu'on fait vachement mieux. Mais enfin bon, c'est pas super rassurant, c'est un peu entre la peste et le choléra. Hein. Aux États-Unis, il y a 93% des produits alimentaires qui ont disparu entre 1900 et 2000 et quelques. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quand même un paquet de variétés, de types de production. Alors, quand on dit diversité alimentaire, ça va de la plante au fromage, à la variété de bovin, enfin la race de bovin, à la méthode de production d'un truc. Mais mine de rien, ça veut dire que quelque part, après il y en a qui ont été créés quand même un peu, mais globalement, aujourd'hui on a quand même énormément moins de diversité que ce qu'on avait jusque-là. Donc l'Arche du goût, c'est un catalogue d'aliments qui sont soit oubliés, soit en danger de disparition. Il y en a pour l'instant à peu près 2000, mais tous les jours, vous pouvez, en vous mettant sur le site de Slow Food, proposer, il y a un fichier à remplir, proposer un produit que vous pensez en voie de disparition, ou une méthodologie, ou quelque chose, une méthode de fabrication. Après, c'est super variable. Il y en a une quarantaine en France. Par exemple, il y a l'agneau solonio. C'est une race d'agneau qui est assez peu développée. Il y a très peu de producteurs qui l'élèvent. Les terres, il n'y en a pas des tonnes. Ces terres en Sologne, elles coûtent assez cher, donc elles peuvent être vendues pour construire des lotissements. Enfin, donc du coup, il y a un risque que l'agneau solonio disparaisse. Le cotignac d'Orléans. Pareil, bon, j'en ai pris quelques-uns, parce que sinon, je n'allais pas vous cotiner les 40 et quelques produits. Le cotignac d'Orléans, c'est une petite production assez spécifique, par un ou deux, je ne sais même pas s'il y a plusieurs producteurs. Le jour où ils arrêtent, on ne sait pas quel est l'avenir de ce truc-là. Le gapon, la poule noire du Berry, les oignons très bons. Pardon ? Gapon, c'est un fromage avec de l'ail. C'est un fromage un peu comme une petite motte de beurre, si vous voulez. C'est auvergnat. Oui, c'est le Puy-de-Dôme. Enfin, oui, je voulais pas. Il me semblait que c'était ça, mais j'étais pas sûre de mon coup. Chez moi, fromage. Et donc, ce sont des produits qui risquent de disparaître parce qu'il n'y a plus beaucoup de producteurs, parce que c'est à risque. En Italie, alors j'ai eu un mal de chien à trouver la liste italienne. Le lardo di colonnata, ça j'en suis sûre. Il y a l'oignon de Tropea aussi qui est dans ces produits-là, qui est un gros oignon de Calabre, qui est un truc qui est... L'oignon de Tropea, il est à peu près cette taille-là, quoi, pour un pamplemousse, c'est un truc énorme, qui est un gros oignon rouge, qui est plutôt doux. Il est dedans. Après, les autres, j'ai pas vraiment trouvé, parce que ça change tout le temps, et la dernière fois que j'ai regardé de fond, on m'a dit la liste est en cours d'évaluation, donc bon. Mais il y a pas mal de produits, enfin donc c'est ce genre de produits qui sont à risque. Donc si vous avez des produits, des productions, des choses comme ça, vous avez le droit de soumettre en fait le fichier à Slow Food qui va regarder, voir et l'intégrer ou pas après enquête à l'Arche du goût. Le deuxième outil, qui est un peu lié mais pas que, c'est les sentinelles du goût. Il y a 400 sentinelles, là il y en a un peu moins, mais pour le coup c'est des programmes beaucoup plus longs. Autant l'Arche du goût, c'est plus ou moins un annuaire, on va dire, qui reprend le produit, comment c'est fabriqué, pourquoi, quelles sont ses caractéristiques, comment ça marche, où c'est fait, est-ce qu'il y a une région, enfin c'est assez précis, mais ça reste quand même un inventaire. Les sentinelles du goût, c'est un soutien beaucoup plus important. Donc de production, d'écosystème unique, de relance de production traditionnelle, il y en a pas mal dans les vins, il y en a aussi dans la façon de faire un certain nombre de charcuteries, dans la façon de refaire du fromage qui était passé de lait cru à lait pasteurisé, donc revenir aux méthodes traditionnelles d'utilisation du lait, enfin il y a ce genre de choses, sauvegarde de race et de variété autochtone, c'est-à-dire des fromages par exemple qui historiquement étaient faits avec une variété de lait d'une provenance d'une race de vache particulière, qui au fil du temps s'est élargie à toute vache habitant vaguement dans le quartier, voire dans la région, voire dans le pays. Du coup, là, ils essaient de revenir aux bases de ça, donc quitte à aider assez concrètement les agriculteurs ou des gens qui voudraient se remettre à la production, c'est-à-dire permettre à quelqu'un de redémarrer une activité de fromage, alors évidemment adaptée aux normes d'hygiène associées à cela, mais de redémarrer une activité. Donc là, c'est assez compliqué, il y a vraiment un protocole assez lourd qui est développé en disant qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette sentinelle, qu'est-ce qu'on veut faire, pour quel produit, pour quel producteur, et quelle est l'action qu'on met en place pour travailler là-dessus. Et par rapport à ça, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est là, depuis assez peu, il y a l'idée de slow food de dire, finalement, c'est que des produits un peu illustres, inconnus, tous ces trucs-là. Donc, c'est un peu difficile de dire, youhou, faites attention à l'agneau du Berry, tout le monde s'en fout un peu. Enfin, à part vraiment localement, l'agneau Sologno, très bien, mais enfin bon, apparemment, d'habiter en Sologne ou d'avoir passé des vacances inoubliables là-bas, on s'en fiche un peu. C'est de dire, du coup, le plus simple, ça serait probablement de créer une marque, qui serait une marque qui s'appellerait Sentinelle du Goût, autour de laquelle Slow Food pourrait communiquer au nom de tous les producteurs, fabricants, éleveurs et cultivateurs de ces produits-là, en disant, bah, du coup, ça permettrait d'être plus concret, parce que quand on arrive sur des méthodes de fabrication qui sont super pointues d'un fromage qui est super local, au-delà de la région, tout le monde s'en fiche un peu. Donc il y a vraiment cette volonté de développer ça. C'est assez récent, mais il y a pas mal de choses qui circulent sur justement cette volonté de créer une marque, les Sentinelles du Goût, que seuls pourraient appliquer les producteurs qui appliquent vraiment toute la méthodologie, mais qui s'engagent aussi à développer en allant dans ce sens. Alors comme ça marchait pas trop mal, le concept de slow food a été un peu décliné au fil du temps, alors avec des trucs plus ou moins réussis, faut être honnête. En 2001, ils ont créé Slow Cheese pour essayer justement de préserver un certain nombre de fromages au lait cru, parce que c'était le début du grand passage des fromages, de tous les fromages de lait cru à lait pasteurisé suite à plein de normes d'hygiène et de réglementation. Donc ça a plutôt pas trop mal fonctionné dans l'idée d'essayer de garder et de militer en fait pour que les AOC acceptent les deux. En disant bah, au moins que les AOC acceptent les deux, à défaut de dire on passe tout au pasteurisé, et d'essayer de faire en sorte que les producteurs restent sur des laits crus, mais en appliquant les normes d'hygiène. En 2004, on a créé Slowfish pour les poissons. Parce que bah, dans les ressources durables, il y a bien un truc qui n'est pas très durable et qui est à risque dans plein de domaines, c'est certaines espèces de poissons. Donc du coup, beaucoup d'actions autour du poisson, des espèces de poissons qui sont à consommer de préférence, celles qui sont à éviter de consommer, une pêche artisanale. Alors après, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que, notamment en France, il y a pas mal d'associations, de mouvements qui se sont créés, qui s'appellent pas Slow Food, qui se revendiquent pas de Slow Food, qui ont plus ou moins pris les mêmes idées. J'ai pas réussi, pour être honnête avec vous, à savoir si Slow Food était content ou pas content de ça. Parce que d'un côté, évidemment, ils aimeraient bien que tout ait la bannière Slow Food. D'un autre côté, il y en a quand même un grand nombre pour lesquels c'est un peu la fin justifie les moyens. Donc à partir du moment où il y a pas mal de monde qui en parle, même s'ils ne s'appellent pas Slow Food, ils ne se revendiquent pas de Slow Food, le but étant qu'à un moment on préserve des ressources halieutiques qui s'appellent Slow Food ou pas, au pire ils s'en fichent un peu. Donc ça, j'ai pas trop réussi à savoir qui était content ou pas dans l'histoire. Peut-être avez-vous des informations. Après, ils ont fait des trucs autour du slow tourisme aussi. Alors ça, honnêtement, c'était tout de suite un peu moins brillant. Parce qu'ils ont quand même développé, enfin bon, toujours autour de la même idée, mais le slow tourisme, alors bon, c'était sur un tourisme un peu plus respectueux, enfin, c'est un peu moins... qui s'éloigne un peu de leur cœur de métier, et du coup, c'est un peu plus fumeux. Et le dernier truc que je vous soumets, bon, c'est... voilà, c'est tout début, hein, il commence, pour faire la Cheetah Slow. Alors, ce sont des villes de plus de 50 000 habitants, qui s'engagent à adopter des mesures d'urbanisme à visage humain, qui veulent être pro-piétons, avec des espaces publics, une courtoisie, l'hospitalité, peu de bruit, enfin... Bon, c'est un peu le monde de oui-oui, mais j'avoue que, pour l'instant, j'ai pas... Bon, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet, ils présentent un peu ça comme la nouveauté du moment, mais après, à part présenter ça comme la nouveauté du moment, il n'y a pas vraiment d'infos sur le sujet. C'est un peu... tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Mais bon, voilà, mais la seule raison pour laquelle je vous ai aussi présenté ça, c'est parce que, enfin, c'est un mouvement qui aujourd'hui va, et depuis le départ, veut aller bien au-delà de dire juste, c'est juste l'alimentation, et par les actions qu'ils mènent, ils sont en cohérence avec ce côté, on veut aller plus loin, on veut développer des choses qui soient au-delà de l'alimentation, au-delà de juste la nourriture, et aller jusqu'à changer la façon de vivre, d'appréhender la ville, l'espace, les relations aux autres. Enfin, on va dire en conclusion que c'est presque un mouvement un peu philosophique, quoi. Ça vient beaucoup plus qu'un mouvement... beaucoup plus qu'un mouvement militant, ça devient pratiquement une philosophie. Alors en France, c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça. En Italie, ça fait quelques années que je suis pas retournée en Italie, parce que bon, le magasin, ça occupe un peu. Mais j'ai toujours été extrêmement surprise par le nombre de magasins, restaurants, petits bouibouis en tout genre en Italie qui affichent l'étiquette slow food sur la vitrine. J'ai toujours trouvé qu'il y en avait énormément. En Italie, ça a beaucoup plus pris à l'évidence qu'en France. Alors l'une des raisons qui est donnée par slow food pour expliquer pourquoi en France, malgré tout, enfin ça reste présent mais c'est pas super proéminent, c'est que en France il y a pas mal déjà cette culture qui est pas mal ancrée avec un tissu associatif autour de ça qui est assez riche et que du coup ils disent c'est pas slow food mais c'est pareil, enfin ça, la philosophie elle-même se développe. Je suis pas sûre que ce soit pas un moyen de se rassurer. En fait, voilà. Ben voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, sachant que moi je ne fais pas partie de Slow Food, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé de près et ça fait partie d'une philosophie un peu générale qu'on essaie d'appliquer nous, même si on n'est pas 100% dans ce truc-là. Mais je pense qu'en tant que commerçant d'alimentaire, on est un peu... C'est bien aussi de regarder aussi ce qui se fait de ce côté-là, parce que moi, je pense, à titre personnel, que c'est plus l'avenir que l'industrialisation à tout craint. Voilà. On l'espère, oui, voilà, c'est un peu de notre truc, mais...
Les règlements européens, tout ça...
Les règlements européens, on va dire que eux, Slow Food, quand vous regardez un peu ce qu'ils racontent, vous disent, par notre influence, on essaie d'influencer un certain nombre de règles, on essaie de faire avancer un peu le schmilblick à notre façon. Après, il est très clair que quand on regarde les réglementations, notamment par exemple pour les fromages, en matière de comment à quoi doit ressembler un laboratoire de préparation de ci, de ça, c'est clairement pas du tout en ligne avec les méthodes traditionnelles, et c'est assez prompt, on va dire, à arrêter tout un tas de petits producteurs parce que mettre un labo aux normes, ça coûte quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros et que celui qui fabrique 10 fromages de chèvre, il va pas se faire suer et il va pas investir 20 ou 30 000 euros pour faire un labo, quoi. Enfin, c'est juste pas une option. Donc, après, c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que, bon, eux vous disent, nous, on fait du lobbying auprès des institutions pour préserver une certaine forme de tradition d'alimentation correcte, et par rapport à ça, oui, il y a des efforts qui sont faits. Après, ce qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne saura jamais, c'est à quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas des gens qui poussaient dans l'autre sens, si vous voulez. Et ça, c'est pas si ça serait pas juste tout aseptisé. Quand on dit qu'aux États-Unis, 93% de la diversité alimentaire a disparu, je pense qu'une grosse partie de cette disparition, c'est lié aussi à la mode qu'il y a eu, notamment dans les années 70-80 aux États-Unis, de tout désinfecter, de tout pasteuriser, de tout cuire. Enfin, donc du coup, assez inévitablement, vous dégagez du champ de vision tout un tas de trucs qui ne peuvent plus rentrer dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que... après, est-ce que c'est grâce à ces associations, parce qu'il y en a d'autres, ou pas, on va dire que ça reste un peu le point d'interrogation.
Donc il n'y a pas d'interdiction sur les territoires de tous ces petits artisans qui fabriquent. Non, il n'y a pas d'interdiction.
Il n'y a pas d'interdiction, après... Bah, il y a des contrôles, bien sûr. Après, vous pouvez faire, pour rester dans les fromages, vous pouvez faire un fromage artisanal en respectant les règles d'hygiène, les règles... Enfin, bon, il y a des règles à respecter. Après, de fait, quand on vous dit qu'il vous faut un laboratoire qui soit avec pas du carrelage, mais des murs en ceci, des cela, du truc, du muche, si vous voulez vraiment un laboratoire qui soit nickel, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y en a certains qui ont fait l'investissement. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait et qui ont arrêté. Et il y en a quelques-uns qui ont, on va dire, arrangé un peu au mieux leur truc et qui croisent les doigts pour pas se faire... bon, s'ils sont contrôlés, après c'est toujours pareil, les contrôles d'hygiène, enfin bon, c'est tout. Il y a la règle et puis il y a une petite marge de tolérance. Donc après, selon ce que vous faites et pourquoi et comment, c'est autorisé ou pas. Donc, mais à mon avis, si vous prenez tous les producteurs locaux en France ou dans n'importe quel pays, il y en a un certain nombre, non, ils ne sont pas aux normes complètement. Après, est-ce que c'est dramatique parce que Si vous avez un labo qui a des carreaux de faïence et pas de la peinture, je sais pas trop quoi, je sais pas si c'est en carreaux de faïence propre et neuf, peut-être que les... si vous avez une petite production, peut-être que quand les inspecteurs de l'hygiène viennent, ils vous disent juste que c'est pas bien, ils vous font pas fermer boutique, alors que si vous avez un truc tout vieux, tout pourri, ils vous font fermer. Je sais pas, hein, j'ai pas de... Le mieux, c'est d'être aux normes, mais je suis pas convaincu que tous les producteurs de petits produits soient tous super nickel aux normes. Enfin, ça me paraît difficile. Mais ce qui est clair, c'est que pour un certain nombre, le passage à des normes compliquées a fait qu'ils ont arrêté. Ou le fait que quand vous revendez, vous ne pouvez revendre à quelqu'un que si votre laboratoire ou votre truc est aux normes. Du coup, de fait, les gens n'ont pas revendu à quelqu'un, ont juste arrêté lorsqu'ils ont pris leur retraite. Donc je pense que c'est comme ça qu'un certain nombre de choses se sont arrêtées. Parce que quand vous êtes en début de carrière, peut-être que vous vous dites finalement d'investir 20, 30, 40, 50 000 euros, c'est ennuyeux, mais ça me permettra de vivre et de manger pendant toute ma vie. Quand vous êtes à 2 ans de la retraite, à mon avis, vous n'avez pas forcément envie. Enfin, ça dépend, c'est des choix personnels, mais je pense que c'est variable.
Vous avez encore des questions?
D'autres questions, d'autres commentaires?
Faut pas hésiter.
Comment?
Dites-moi.
Pour être aux normes, faut payer, mais comme c'est local, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et comment on peut sauver la situation? La situation est impossible.
Mais c'est un peu, enfin, c'est un peu la limite des normes et des normes très très restrictives, parce que le problème d'un certain nombre de normes, c'est que c'est valable pour le petit monsieur ou la petite dame qui fait ses quelques fromages avec le lait de ses 3-4 chèvres, et c'est aussi valable pour Bell ou président qui fait quelques milliards, et il y a même dans un certain nombre de cas, à 2 miettes près, vous avez les mêmes normes. Donc c'est un peu le côté, c'est un peu la limite de l'exercice. Après, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je suis pas sûr. Je pense que les inspecteurs de l'hygiène qui viennent contrôler les laboratoires de chez Bell, Beignet ou je sais pas qui sont probablement beaucoup plus exigeants et intransigeants que quand ils viennent et regarder le laboratoire s'ils y vont au fin fond de la campagne. Enfin, j'espère. Après, s'ils veulent respecter les règles, ben, les normes, si vous voulez les respecter, elles sont à respecter. Après, il y a tout un tas de choses qui sont, on va dire, indépendantes des normes et qui sont aussi, quand on prend par exemple ce qui est fait à Mont-Louis-sur-Loire, là où De Breuil a remis je ne sais plus combien de variétés de tomates, la Bourdaisière, où il a essayé de remettre, enfin de recultiver et de récupérer je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de variétés de tomates, quelque part, c'est une approche que Slow Food reconnaîtrait comme étant intéressante parce que ça permet, même si c'est à très petite échelle, d'éviter que des variétés qui existaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 200 ans, disparaissent complètement de la nature ou soient croisées avec d'autres trucs. Donc ça permet de conserver des choses et ça c'est un peu indépendant des différentes normes qui peuvent exister. Donc après les normes c'est une chose pour la production et pour certaines productions. Mais indépendamment de ça, il y a quand même des choses à faire en matière de choix des produits, de standardisation des produits. Dans le même esprit, toute la logique qui commence à se développer là depuis à peu près 1 an ou 2 autour des produits biscornus, là il y a toute une campagne qui a été développée, on va dire que ça relève de la même logique quelque part, même si c'est pas complètement pareil. De se dire, faut arrêter de vouloir une pomme qui soit grosse comme ça, brillante, magnifique, qui n'ait pas un petit point de quelque chose, pas une tache, pas un machin. Ça, c'est aussi le consommateur qui veut ça. C'est-à-dire que tant que le consommateur n'accepte pas d'avoir un machin qui soit un petit peu la carotte, qui soit pas pile poil droite, le concombre qui soit un peu bancal ou tordu, tant que le consommateur n'en veut pas, quelque part, le producteur, je ne vais pas dire est obligé, mais il n'y a pas vraiment de choix que de la mettre au rebut. À partir du moment où un certain nombre de consommateurs disent « Mais moi, ça, j'en veux, je m'en fous pas mal qu'il soit tordu, droit ou de travers », à partir de ce moment-là, quelque part, on sort ou on re-rentre dans la consommation des trucs qui partaient à la benne.
Il y a le bouche à oreille qui joue. Quand
bien sûr.
Quand un produit est bon et qu'on le fait goûter à d'autres...
Bien sûr. Donc après, je pense que... De cette philosophie-là, qui est la philosophie du mouvement Slow Food, on peut être d'accord ou pas d'accord avec tout un tas de choses, mais moi je pense que la logique de se dire on est quand même responsable des choix qu'on fait,
plan éthique.
Bien sûr. Sur le plan éthique, on est quand même responsable des choix qu'on fait. Et si on passe notre vie à manger des trucs qui sont industrialisés, faut pas s'étonner qu'on soit, enfin, qu'on ait un goût qui soit standardisé, qu'on soit plus capable de faire la différence entre trois variétés de pommes, enfin, et que les gamins, ils pensent que les frites, ça pousse aux arbres. Enfin, non, faut... c'est juste la logique. Enfin, c'est juste la suite logique, hein. Oui. Bah, c'est une super nouvelle, enfin, c'est très bien, ça commence dès le départ. Ouais, mais c'est bien, parce que si à l'école on commence toujours à vous donner, enfin si 80% de vos cours à l'école agricole c'est comment mettre des engrais, il y a zéro chance pour qu'une fois sorti de ça vous continuiez pas. Si on commence à vous expliquer qu'il faut quand même réfléchir à ce que vous faites, comment, pourquoi, ça permet quand même d'avoir cet état d'esprit. Donc, honnêtement, je suis très contente de voir qu'il y a un certain nombre de choses qui avancent. Après, faut pas rêver, hein. Ça avance pas comme ça, ça va pas changer en 3 minutes. Il y a quand même d'énormes intérêts économiques, que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, parce que, à l'évidence, on a quand même des industries, Ça veut pas dire que tout ce qui est industriel est pas bien, hein, d'ailleurs. Il y a des choses qui sont très bien. Mais il faut arriver... Il faut savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses industrielles qui sont bien, mais qui sont bien dans certains cas. Au même titre que quand on est pressé, un sandwich chez McDo, c'est pas forcément une aberration. Mais après, quand on commence à se dire « je vais au restaurant, donc je vais chez McDo », pour moi, c'est là où commence le problème. C'est pas d'y aller qui est le problème. Quand on y va parce qu'on est sur l'autoroute et qu'on a le choix, qu'on se dit « on s'arrête 5 minutes », ça peut être une option, j'en sais rien, je vais jamais, mais ça peut être une option. Mais par contre, tous ceux que j'entends dire « on est allé au restaurant ce week-end, on est allé chez McDo », j'avoue que ça me... Le problème, il est là. C'est comme manger des plats tout, enfin, tout fait industriel. Ça peut arriver. On est pressé, on n'a pas le temps, on n'a pas de four. On est très bien. Mais il faut juste savoir ce qu'on fait. Et je pense que la notion de conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on consomme et de ce qu'on choisit, au même titre que si on veut absolument avoir, dans sa surtout pour mettre en compote, des pommes qui sont nickel, toutes cirées, toutes magnifiques, faut pas s'étonner après que dans les magasins on trouve que ça. Mais du coup, faut pas s'étonner que le prix de la pomme soit plus cher, parce que quand on en a foutu au rabais, au rebut, une sur 5 ou une sur 6, celle-là, faut pas rêver. Hein. Le producteur, il vous les fait payer quand même de toute façon. Donc à un moment, je pense qu'il y a une logique qui est peut-être en train de changer. Ça, c'est super nouvelle si dans les lycées agricoles, ils commencent à arrêter ce genre de démarche. Dans les écoles, ils commencent aussi à expliquer, enfin bon, moi j'ai ma fille qui est en maternelle, on lui apprend à faire une salade de fruits, ce qui est plutôt une bonne idée, parce que une soupe, une salade de fruits, enfin... Oui, non, mais enfin, quand vous... J'avais lu un truc aberrant, il y a, je sais, des gamins de 12 ans, il y en a, je sais plus, 70 ou 80% qui sont incapables de vous expliquer comment pousse un petit pois. Enfin, c'est pas non plus... Et quand je disais les frites poussent aux arbres, je sais plus, mais il y avait quand même un nombre important, hein, de gamins qui répondaient que les frites, ça poussait aux arbres. Ah ben un steak haché, ben, congelé et des frites, ça c'est quand même une aberration. Enfin, on est bien d'accord. Ouais, mais voilà. Enfin, il faut aussi. Je pense que chacun dans chaque domaine a un petit truc à ajouter. Donc je sais qu'avant Orléans est en train de se créer une association professionnelle qui justement trouve que tout le système du fait maison c'est proposé généralement est quand même assez limité, parce qu'à l'arrivée bon vous pouvez ouvrir un sachet de salade alors que c'est quand même pas très compliqué à éplucher sa salade, bon voilà. Donc du coup il y a des limites, donc bon il y a des choses qui sont en train de bouger, mais petit à petit. Et mais je pense qu'il faut faire les choses en conscience. Enfin, ça, c'est mon point de vue, qu'à un moment, il faut quand même... Mais il faut que ça parte de l'éducation des enfants, et... Et il y a du boulot.
L'éducation du goût.
Mais le goût, ça s'éduque, hein. Enfin, bon, moi, mes filles, elles mangent des légumes. À chaque fois que je vais faire les courses, tout le monde me regarde avec des grands yeux, mais elles en mangent depuis qu'elles sont petites, hein. Enfin...
Même des betteraves.
Alors, la betterave, c'est le seul truc qu'elles n'aiment pas, ni l'une ni l'autre, c'est bizarre.
C'est la betterave rouge, c'est
Non, mais bizarrement, elles n'ont jamais aimé. Alors qu'elles aiment les blettes, l'aubergine, enfin des trucs, le fenouil, le chou-fleur et des trucs.
C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus en plus de pays. Mais qu'un enfant n'aime pas un plat.
Non, mais.
Plat
légumes, non, mais. Qu'on n'aime pas un truc. Le problème, c'est quand on en aime qu'un. Le problème, c'est les gens qui n'aiment qu'un truc. C'est pas qu'ils n'aiment pas un truc. Moi, je sais qu'elles n'aiment pas la betterave, je m'en fiche un peu. Hein. Il y a 200 légumes qu'elles mangent, peu importe. Mais je pense que ça fait partie d'une éducation. Et que le goût, ça s'éduque. Enfin bon. Alors, je vous ai apporté. Ça, c'est de la mustela sarde. Alors, la mustela sarde, ça pourrait bien faire partie de l'arche du goût un jour. Parce que c'est une spécialité de Sardaigne qui est du filet de porc qui est mis en saumure avec des herbes. Thym, romarin, laurier. Donc, c'est une charcuterie qui est assez peu développée. Il y a assez peu de producteurs. Donc ça pourrait faire partie du slow food un jour, parce que je pense que le jour où les quelques producteurs de ce produit vont arrêter, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde, enfin c'est un petit marché, on a un producteur qui fait ça, il y en a apparemment un autre, mais on est à peu près dans le seul truc. Donc je vous ai apporté ça. Je vous ai apporté aussi un autre truc qui est pas slow food, mais bon voilà, qui est de la scamorza fumée. C'est un peu pareil, ça fait partie des produits, ça c'est un peu plus développé, mais les vrais producteurs de scamorza avec au lait de bufflone, c'est pareil, il y en a plus beaucoup. Et ça, ça n'a rien à voir avec slow food, mais tous les ans, comme c'est la tradition, je vous apportais un panettone. Alors ça, le panettone, on est plutôt dans l'éducation au goût. C'est-à-dire que le panettone, il y a du bon et du pas bon. Et que quand on est habitué au pas bon, on n'aime pas le panettone. Donc normalement, celui-là, il va bien.